Frères et sœurs bien-aimés, si le temps du carême a commencé pour nous dans le désert dimanche dernier, notre méditation nous avait conduit dans le jardin des origines, celui-là même où nos premiers parents ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si le Christ dans le désert était ainsi conduit par Dieu le Saint-Esprit, c'était pour affronter en agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, c'est ainsi qu'il venait d'être confessé par Jean le Baptiste. Il fallait alors, lui qui prenait sur lui nos péchés, qu'il affronte la tentation qui conduit au péché, qu'il affronte le tentateur. Dans l'évangile de ce dimanche, nous ne sommes plus ni dans le désert, ni dans le jardin des origines, attendant que le désert de ce monde, par le retour du Christ, refleurisse, selon la prophétie du prophète Isaïe. Nous sommes en compagnie des apôtres les plus proches que le Seigneur Jésus a choisis pour vivre une expérience fondamentale sur une haute montagne. Le Seigneur Jésus entend non seulement enseigner ses apôtres, mais leur donner à voir, à entrevoir la fin pour laquelle ils vont le suivre jusqu'à la croix, et mis à part Saint Jean, tous suivront le Seigneur dans le martyre. Il veut leur faire entrevoir ce qu'il leur a annoncé à trois reprises. Raison pour laquelle Saint Pierre, dans l'Évangile, vient de prendre à part le Seigneur Jésus pour lui faire de vifs reproches. En effet, le Seigneur Jésus a annoncé le mystère pascal. À trois reprises, il a annoncé qu'il était le Messie humilié. Alors revient en mémoire pour les apôtres la prophétie qu'avait entrevue Isaïe, que ce grand Messie, vainqueur, victorieux, serait tout autant un Messie humilié, familier de la souffrance, et au moment de sa passion, ne ressemblant plus même à un homme, homme de douleur. Pierre avait pris à part le Seigneur Jésus, lui faisant de vifs reproches. Quelle était donc cette idée ? Lui qui est reconnu et acclamé comme le Messie, lui qui accomplit autant de miracles qui sont de signes à interpréter, comment peut-il annoncer qu'il va beaucoup souffrir et bientôt mourir? Pour permettre aux apôtres d'entrevoir la lumière sur ce chemin fait de ténèbres et de douleurs que le Christ, à l'image du désert où nous l'avons rencontré dimanche dernier, va emprunter pour nous, il veut leur donner à voir le terme, leur dévoiler un quelque chose de sa nature divine, leur dévoiler un quelque chose de ce que sera la résurrection. Car en effet, si le Seigneur leur annonce à trois reprises qu'il va beaucoup souffrir, qu'il va mourir, il leur annonce aussi qu'il va ressusciter. Et les apôtres de s'interroger, n'osant pas interroger le Seigneur lui-même, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter d'entre les morts? Nous comprenons alors pourquoi le Seigneur Jésus demande à ses apôtres de le suivre sur cette haute montagne où soudainement il est transfiguré à leurs yeux. Cette transfiguration consiste, nous l'avons entendu dans la description de l'évangéliste, en ce que tout d'abord le Seigneur soit élevé de terre, que son vêtement devient brillant, mais son visage lui-même devient lumineux. Le Seigneur Jésus dévoile là que dans cette nature humaine aux côtés desquelles il chemine, se tient cachée la gloire de sa divinité. Il est Dieu de toute éternité, le Dieu des morts et le Dieu des vivants. Voilà pourquoi dans cette transfiguration apparaissent à ses côtés et le grand patriarche Moïse, et le plus grand des prophètes, Élie. Saint Jérôme, dans son commentaire, nous permet même de comprendre le mouvement avec lequel et Moïse et Élie apparaissent aux côtés du Seigneur. Il a été donné à Moïse de sauver le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte. Il lui a été donné de faire traverser la mer Rouge qui s'est ouverte alors sur le désert et ses tentations. Mais voilà qu'au terme de sa vie, Moïse contemple du haut de la montagne, car il va être rappelé à Dieu, le Jourdain, frontière naturelle de la terre promise que depuis 40 ans, il parle auprès du peuple. Mais il n'est pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise. Il meurt. C'est Josué, même étymologie que Jésus, qui va alors entrer dans la terre promise. Moïse, nous dit donc Saint Jérôme, puisqu'il est mort et enterré, il paraît des profondeurs de la terre aux côtés du Seigneur Jésus. En revanche, le prophète Élie, son intimité avec Dieu était tellement grande que c'est au bord du Jourdain que son char devint de feu et l'éleva directement à la gloire du ciel. Saint Jérôme affirme donc que si Moïse descend des profondeurs de la terre d'où il était enterré, Élie lui descend de la gloire du ciel. Cette transfiguration manifeste, eh bien, que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie du monde à venir. Le fait que le visage du Seigneur Jésus soit ainsi transfiguré rappelle aux apôtres tout ce que l'on rapporte du visage même de Moïse lorsque, dans l'attente de la rencontre, il lui était donné de rencontrer Dieu lui-même. On voyait cette lumière, ces éclairs dans cette tente. Et lorsque Moïse en sortait, on le suppliait de mettre un linge sur son visage, tellement son visage était lui-même devenu lumineux. Plus près de nous, dans ses extases, sainte Bernadette étonnait les témoins des premières apparitions. Parce que le visage de Bernadette était lumineux, non pas qu'il soit éclairé de l'extérieur, son visage était devenu en lui-même incandescent. Le Seigneur l'affirme, frères et sœurs, nous sommes la lumière du monde, nous avons donc en notre âme à faire resplendir cette lumière de la foi, de l'espérance et de la charité que contemplent les apôtres ébahis dans le Seigneur Jésus élevé de terre. Mais là ne s'arrête pas l'expérience mystique de cette transfiguration. Saint Pierre se permet de demander au Seigneur Jésus « Ne puis-je pas dresser trois tentes ?» Non que Saint Pierre veuille camper, c'est la tradition biblique, nous parlerions-nous de chapelle ou de consacrer un autel. Il veut consacrer une tente au prophète Élie, une au prophète Moïse et une au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus décline cette proposition de Pierre. Pierre n'aura pas à bâtir des tentes. La mission de Pierre, qu'il recevra bientôt, sera celle de construire, d'édifier l'Église pour laquelle il va recevoir les clés du royaume des cieux. Alors, survint une nuée. L'expérience mystique laisse les apôtres abasourdis sur le sol. Ce qu'ils contemplent n'est pas de ce monde. Cette nuée lumineuse les effraie d'autant plus qu'elle est en train de les saisir et de les envelopper. Nous contemplons là, frères et sœurs, la plénitude de la révélation en notre Seigneur Jésus le Christ. Il est Dieu lui-même qui vient se révéler à nous. Il est entouré de Moïse, gloire de tous les patriarches du peuple de Dieu. Il est entouré du plus grand de tous les prophètes, Élie. Et voilà que maintenant, cette révélation qui était bâtie et sur les révélations accordées à Moïse et sur les prophéties données aux prophètes, comprend maintenant les apôtres, car la foi en sa plénitude, en notre Seigneur Jésus le Christ, va passer à présent par eux, par leur témoignage. Témoignage de leurs écrits, certes, mais surtout témoignage de leur vie apostolique qui, dans leurs passions respectives, va les identifier à notre Seigneur Jésus le Christ. Mais là ne s'arrête pas l'expérience mystique de cette transfiguration, c'est qu'à présent, dans cette nuée, pour la seconde fois, la voix de Dieu le Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Voilà l'ordre lancé à Dieu le Père, aux apôtres que le Seigneur a appelés à ses côtés pour vivre cette transfiguration. Si Dieu le Père se fait entendre à travers cette nuée, si Dieu le Fils est transfiguré dans cette nuée lumineuse, Dieu le Saint-Esprit est lui-même cette nuée qui a pour mission de nous conduire, non plus à travers le désert de ce monde, ce que faisait la nuée dans l'Ancien Testament, mais cette nuée lumineuse est là pour nous conduire vers la vérité tout entière, vérité révélée en notre Seigneur Jésus le Christ, qui s'appuie sur la révélation de l'Ancien Testament, sur les révélations faites à Moïse et Élie et sur ses apôtres qui vont alors fonder l'Église. Et c'est soudainement, se relevant, qu'ils ne virent plus, nous dit saint Matthieu, que Jésus seul. Le voilà revenu comme ils le voyaient habituellement dans son humanité. Et saint Thomas d'Aquin de s'interroger et de nous interroger, où se trouve donc le miracle dans la transfiguration? Serait-elle dans le visage ou le vêtement du Seigneur? Serait-elle dans cette apparente résurrection de Moïse ou dans le fait que le Seigneur Jésus soit capable de faire descendre le prophète Élie? Est-ce que le miracle est d'entendre la voix du Père ou encore d'entreapercevoir le Saint-Esprit sous la forme de cette nuée lumineuse? Non, affirme saint Thomas d'Aquin. Le grand miracle, c'est qu'ils ne virent plus que Jésus seul. Autrement dit, le miracle des miracles, comme ils l'appellent, c'est que l'humanité du Seigneur Jésus tient cachée toute la gloire de sa divinité qu'il vient momentanément de révéler à ses apôtres pour leur donner la persévérance, l'endurance nécessaire sur ce chemin de foi qui va les configurer à lui. Il va passer par la souffrance, il va passer par la mort, il va ressusciter. C'est ce qui nous attend à nous tous, à la suite des apôtres. Alors nous rendons grâce, car en ce temps du carême, nous ne cheminons pas seulement dans le désert de ce monde, sans but, errant, comme tant de nos contemporains qui n'ont pas d'espérance. Nous cheminons chacun à travers les épreuves de ce monde comme un Simon de Cyrène qui aiderait le Seigneur Jésus à porter sa croix. On ne sait peut-être ni le lieu où l'on se va, où le bon Dieu nous attend, mais on sait que la direction de notre vie spirituelle, c'est la vie éternelle en paradis, où alors nos yeux verront ce qu'ont tout simplement entreaperçu les apôtres dans cette transfiguration. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, mère de la vie spirituelle, eh bien nous aider à contempler le Seigneur Jésus, le mystère du Christ, véritablement Dieu, véritablement homme, qui se donne à nous sans retard, sans retour, par amour. Ainsi soit-il.